N'est-ce pas? Ce sont des souffrances d'amour. Et tout ce qui était en lui était bouillonnant d'amour. Donc tout, on a vu, frères et sœurs, on a compris jusqu'où son amour, cet amour était infini. Et pourquoi Jésus a-t-il tant souffert de manière divine et infinie? Simplement parce que son amour s'est déployé de manière infinie et aucune créature n'a pu et ne pourra lui rendre cet amour. Ce n'est pas ce qu'il demande, puisque nous ne serons jamais en capacité de lui rendre tout l'amour qu'il nous donne, lui étant Dieu et nous créatures, lui étant infini et nous finis, nous ne pouvons pas lui donner l'amour qu'il nous donne. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui manifester, ne fût-ce qu'un instant, justement cet élan d'amour que nous avons reçu de lui, en fait, que nous lui donnions son amour à lui pour qu'il s'aime lui-même, en quelque sorte. Le problème, c'est que les créatures se sont barricadées derrière leur certitude et derrière leur volonté propre. Ils ont refusé d'accueillir l'immensité de cet amour. Du coup, elles sont restées malades, fragiles et limitées. Et ce faisant, il y a en Dieu une souffrance profonde de ne pas pouvoir entrer dans la volonté des créatures et les prendre en lui. C'est ce qui est fait la souffrance infinie de Dieu. C'est ce qui coulait dans ses veines. Ses veines étaient bouillonnant de douleur d'amour, d'amour refusé et refoulé par les créatures qu'il a aimées de toute éternité et de manière indicible et inimitable. Frères et sœurs d'amour, dans la sixième heure, Luisa aperçoit Jésus qui avance vers ses disciples qui somnolent. Et les disciples au jardin de Gethsémani, comme nous l'avons dans les évangiles, ont fini la scène et ils ont suivi Jésus à Gethsémani, du moins pour quelques-uns d'entre eux. Et une fois que Jésus se retire pour la prière, les autres sont, n'est-ce pas, accablés par la fatigue et ils se mettent à dormir. Et Jésus s'approche d'eux et nous connaissons la phrase de l'évangile, mais vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent et la chair est faible. Veillez et priez. Alors Jésus est dans une douleur profonde de voir que les disciples sur qui il comptait sont en train de dormir, alors que lui, il a devant lui ce que nous allons décrire tout à l'heure, la vision du drame de l'histoire humaine qu'il est amené à porter dans quelques heures dans sa douloureuse passion. Et par là, frères et sœurs bien-aimés, la somnolence des disciples était certes légitime, nous pouvons le justifier, par le fait qu'ils étaient fatigués. Mais nous pouvons aussi comprendre qu'ils ont été prostrés par la fatigue simplement parce que ils n'ont pas eu la vigilance de garder une certaine sobriété pendant le repas pascal. C'est possible aussi, ce sont des hypothèses. Mais toujours est-il qu'en ce moment, si Jésus leur dit « Pourquoi dormez-vous ?», cela veut dire qu'ils étaient capables de ne pas dormir. En fait, Jésus, dans la douleur qu'il voit, qu'il vit, en constatant que ses disciples les plus chers, les plus aimés sont dans le sommeil, en ce moment, il répare dans cette douleur les tièdes de tous les disciples bien-aimés, en particulier les âmes consacrées, les prêtres, qui sont normalement censés suivre Jésus et qui s'attiédissent, qui se vautrent dans toutes sortes de choses qui les conduisent au sommeil fatal pour l'âme, un sommeil fatal pour l'âme, au sens symbolique du terme, frères et sœurs bien-aimés. Non pas le sommeil physique qui est indispensable pour la régénérescence du corps humain, mais il s'agit d'un sommeil spirituel dans lequel beaucoup d'entre nous, comme moi aussi, nous sommes comme prêtres vautrés avec tout ce que ça comporte comme tiédeur, manque de foi, manque d'amour brûlant pour le Seigneur quand nous montons justement pour la célébration de la Sainte Messe par exemple. Et Jésus, en ce moment, dans cette douleur-là particulière, répare pour tous les prêtres, justement, qui travaillent à ne pas être brûlants, qui font tout pour ne pas être brûlants, simplement par pour raison de compromission ou autre, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour nous l'occasion, chers sœurs et frères, nous allons en parler encore une fois, de porter dans vos prières, vraiment, frères et sœurs, de porter dans vos prières les prêtres. Les prêtres, les âmes consacrées, ont besoin de la prière fervente et ardente des fidèles. Ce n'est pas évident. Je peux vous le dire, ce n'est pas évident. Il faudrait, surtout dans un contexte comme celui-ci, où plus personne ne croit, il faudrait vraiment une grâce surnaturelle pour continuer à croire que nous avons été choisis pour quelque chose. Et que la mission de notre Seigneur, en se dessinant devant nous, nous donne de comprendre que quel que soit ce que nous avons à traverser, les mers et les océans de découragement, que nous sortirons victorieux et que nous serons un jour de l'autre rive, de l'autre côté de la rive de la victoire du Seigneur, sur tous les moments de mort ou de découragement. Frères et sœurs, je nous en supplie humblement. Ensuite, frères et sœurs, Luisa voit Jésus qui rentre maintenant dans la vision du projet que Dieu a sur lui. Qu'est-ce que Dieu a sur lui comme projet? Nous le savons depuis les origines. L'incarnation a pour but de ramener la créature au but, au rang et à la place pour lequel il a été créé. Et ça, c'est une vérité que nous comprenons encore mieux par Luisa Picaretta. Mais ici, frères et sœurs, Jésus voit le drame de toute l'histoire humaine. Il voit l'humanité tout entière avec tous ses péchés, tous ses manquements, toutes ses souffrances, tout ce qui l'empêche à donner son oui total à Dieu. Dieu, Jésus, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, porte dans la présence de la coupe qu'il est en train de vouloir boire, porte tous nos péchés, de tous les humains de toute la terre, depuis son origine jusqu'à sa fin. En fait, tout ce que nous avons posé au cours de l'histoire humaine comme acte pécamineux, Jésus en ce moment le porte, le voit et l'entrevoit. C'est pourquoi à un moment donné, il va dire à son père, « Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, pourquoi demandait-il à son père d'éloigner de lui cette coupe ? » Simplement, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que il voit toute l'histoire humaine se dérouler devant lui. Depuis le premier péché d'Adam, la désobéissance originelle, jusqu'au péché du dernier homme qui viendra sur cette terre, en passant par tous nos péchés à nous, de tous les hommes, de tous les drames de l'histoire, les grands massacres, les génocides, tout ce qu'il y a eu d'horreur dans l'humanité, Jésus est en train de le percevoir en ce moment. Et c'est pourquoi il entre dans une sorte de tremblement intérieur et demande à son père d'éloigner de lui cette coupe. Et il s'ensuit, frères et sœurs, que Jésus était seul effectivement capable de sauver le monde, puisqu'il était Dieu. L'humanité, aucun homme n'aurait pu porter dans sa propre chair, dans sa nature fragile, autant d'horreurs que l'histoire aura connues. Cela veut dire que tout ce qui est dans toutes les civilisations, comme crimes, horreurs, qui se font encore aujourd'hui, tous les jours, les crimes massifs, les grands plans d'extermination des peuples, de toute l'histoire, de tous les temps, Jésus a souffert au jardin de Gethsémani et dans sa passion pour tout cela. C'est pourquoi Dieu seul pouvait souffrir une telle souffrance. Et frères et sœurs, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Il ne souffre pas simplement pour chaque homme, mais il souffre pour chaque péché de chaque homme. C'est inouï. C'est inouï un tel amour. On ne peut pas, frères et sœurs bien-aimés, mesurer la puissance d'amour qui se dégage de la croix. C'est l'amour infini. Pourquoi Jésus a-t-il souffert autant, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi Jésus a-t-il souffert autant? Sinon pour qu'aucun ne se perde. Et à la fin de sa vie, dans sa prière sacerdotale, il va dire, « Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. » Le mystère reste autour de ce fils de la perdition. Qui est-il? Là n'est pas notre problème. Toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus a souffert tout cela pour qu'aucun de nous ne soit malheureux, pour que nous baignions dans son océan d'amour. Il faut le croire, il faut le croire de toutes nos forces, frères et sœurs bien-aimés. Il faut le croire de toutes nos forces que nous sommes aimés de Dieu. Et celui qui rentre dans la logique du désespoir, rappelons-le lui, qu'il est aimé de Dieu. Qu'il est aimé infiniment de Dieu et que Dieu a versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour lui. Et ce faisant, frères et sœurs, quand il souffre pour chaque péché de chaque créature, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il souffre pour les péchés en pensée, en parole, par action et par omission de l'humanité tout entière, de chaque homme sur cette terre, depuis le premier jusqu'au dernier. Alors, qui peut porter cette souffrance-là? C'est tout simplement inouï. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que pour vous comme pour moi, Jésus a souffert tout dans chaque fois que nous avons péché en pensée, que nous avons eu à pécher en acte, en parole et par omission. Jésus a souffert pour chacun de nos péchés depuis que nous sommes nés et ainsi pour chaque homme sur cette terre jusqu'à la fin du monde. Voilà le mystère de l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi il peut dire à son Père, « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, tellement c'est inouï et immense. » Tout simplement parce qu'il est amour, frères et sœurs bien-aimés. Il accepte d'entrer. Certes, on dira qu'il est Dieu et que comme Dieu, il peut tout souffrir. C'est vrai. Mais pourquoi souffre-t-il? Il ne souffre pas de manière orgueilleuse en disant « Oh, toi, moi, j'ai souffert pour toi. Hein, et toi, hey, regarde, moi, je suis Dieu. De toutes les façons, la souffrance ne m'atteint pas. » Et toi, tu es sauvé grâce à moi parce que... Non. Ce n'est pas notre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas notre Jésus. Jésus entre vraiment dans notre condition. Cela veut dire qu'il épouse notre souffrance. Il épouse notre tristesse. Ma chère sœur, mon cher frère, quand tu es triste, Jésus est là avec toi. Il est triste avec toi. C'est cela. Quand tu souffres, Jésus entre dans ta souffrance. Il souffre avec toi. Il ne te laisse pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. S'il te plaît, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Je t'en supplie, ne te décourage pas. Il est là. 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 Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête douloureuse? Dans sa tête douloureuse, frères et sœurs bien-aimés, il concentre, il souffre pour toutes les mauvaises pensées. Pour toutes les mauvaises pensées. Est-ce que lui, il a voir? Et qu'est-ce qui se passe dans ses yeux? Il souffre pour tous les regards méchants des créatures qui lui font couler des larmes de sang. Et en cela, frères et sœurs, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Aider le Seigneur. Aider le Seigneur, ou plutôt consoler son cœur en entrant dans les dispositions de cœur et d'amour qu'il a forgées de toute éternité pour que nous y démérions sa vie divine, sa vie divine. Et il ne nous reste plus qu'à disposer devant les yeux du Seigneur, n'est-ce pas, tout, comme dit Louisa, tous les délices du ciel et de la terre. Donc tout ce qui est mauvais et qui le font souffrir et qu'il voit et qu'il font souffrir, alors offrons-lui, montrons-lui la beauté du ciel en essayant de vivre cette beauté, d'accueillir sa vie en nous pour que cette beauté se reflète au tréfonds de notre âme, de nous-mêmes, pour pouvoir ravir son regard qui est déjà torturé par toutes les méchancetés qu'il observe à la surface de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez bien compte que nous ne sommes pas là dans la nourriture, dans l'apéritif. On est déjà là dans le plat de résistance. On est dans le plat de résistance avec la vie dans la divine volonté. On est là pratiquement en train de nous, Jésus est pratiquement là en train de nous dire, mon enfant bien-aimé, je t'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai versé mon sang jusqu'à la dernière goutte pour toi. S'il te plaît, est-ce que tu veux, est-ce que tu acceptes que je vienne encore aujourd'hui en toi et avec toi continuer mon œuvre de rédemption de l'humanité. Et comment est-ce que tu vas m'aider, puisque tu n'es pas Dieu? Tout simplement, t'associer à ma propre vie et pour me laisser vivre tout en toi, pour que ce que j'aurai à vivre, que cela se reflète sur l'ensemble de toutes les créatures, passées, présentes et futures, et que je sois en toi le seul motif, la seule source véritable de ta vie, ici-bas. Et que toi, tu ne peux m'aider qu'en me montrant par la beauté de ton âme, d'où jaillissent les effluves d'amour de mon propre cœur, puisque j'habite en toi. Redonne-moi cet amour que je t'ai donné, mon enfant. Redonne-moi cet amour. Et alors, en me redonnant cet amour, je trouve une joie profonde en me rendant compte que je peux me refléter dans une créature et que je peux faire d'une créature un véritable miroir dans lequel je trouve mon propre visage. Il dit, mon enfant, je t'en supplie, laisse-moi entrer en toi. Et offre-moi les beautés, les splendeurs du ciel reflétées par ton âme. Et pour que je sois consolé de ces terribles réalités que je revois dans le monde et que je dois porter bientôt. Dans la chronologie de la passion, on s'entend, en mourant sur la croix. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. A-t-on vu un Dieu aussi aimant? Où allons-nous le trouver, frères et sœurs? Où allons-nous le trouver, ce Dieu? Où allons-nous le trouver? Où allons-nous le trouver? Jésus seul peut le manifester. Jésus seul peut manifester la puissance d'un tel Dieu. Voyez. Jésus seul peut manifester, frères et sœurs, d'amour. Jésus seul peut manifester ce véritable visage d'un Dieu qui veut trouver dans toutes les créatures sa propre ressemblance, qui veut trouver dans toutes les âmes des créatures son effigie, qui veut trouver sur chaque visage et dans chaque cœur son propre visage. Frères et sœurs d'amour, nous allons encore certainement consacrer quelques minutes plus tard à cette sixième heure qui est infiniment riche, comme d'autres d'ailleurs. En attendant, frères et sœurs, je nous en supplie humblement. Croyons que Dieu n'est qu'amour. Croyons que nous sommes aimés infiniment de lui. Et croyons que tout ce qu'il veut, c'est que l'humanité l'aime, que l'humanité connaisse et goûte à cet amour. Notre Dieu s'appelle amour. Frères et sœurs, notre Dieu s'appelle amour. Laissons-le graver son visage en nous. Que Jésus vous bénisse, frères et sœurs d'amour. À tout de suite pour la prière du Saint-Rosaire. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Que Dieu vous garde. À très bientôt. À tout de suite.
Vous êtes l'amour de Christ, alors.